Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, c'est le 23 mars 2009 que le Musée de l'Homme ferme ses portes au public. Réouverture prévue dans 3 ans, en 2012. Malgré sa place prestigieuse sur la colline de Chaillot, place du Trocadéro à Paris, le Musée de l'Homme a bien vieilli et un jeune musée tout aussi prestigieux l'a encore un peu plus éclipsé, le musée du Quai Branly qui a ouvert ses portes en 2006. La polémique n'a désormais plus lieu d'être, ces deux musées ayant chacun leur identité et leur spécificité propre. La première, pour le Musée de l'Homme est d'être un musée-laboratoire qui mêle recherche, conservation, enseignement et où sur un même espace cohabitent le public et les chercheurs. Alors en quoi va donc consister la rénovation? La collection permanente va-t-elle changer? Et comment va-t-elle s'articuler dans le nouveau parcours de ses visiteurs? Enfin, où vont travailler ces chercheurs pendant les 3 ans de travaux? Pour en parler, Jean-Pierre Mohen, directeur de la rénovation du Musée de l'Homme, est avec nous. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question sera toute bête. Pourquoi rénover le Musée de l'Homme? Qu'est-ce qui n'allait pas?
Le Musée de l'Homme a plus de 70 ans, c'est-à-dire il a été créé par Paul Rivet, en 1937 et il a été ouvert en 1938. Donc 70 ans, surtout avec les connaissances qui ont été accumulées depuis ces temps derniers, c'est toute une vision de l'humanité qui peut être présentée non pas en contradiction avec ce qu'avait fait Paul Rivet, puisque c'était génial, et on reprend la même idée de ce musée-laboratoire avec les chercheurs, et ces chercheurs existent toujours, puisque comme au sein du Muséum d'histoire naturelle, il dépend du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais voilà, cette vocation fait que, par définition, qui dit recherche, dit qu'on retrouve des choses nouvelles et régulièrement. Eh bien, il est vrai que la vision qu'on a aujourd'hui de cette humanité évolue beaucoup, que les questions se posent, il y a peut-être moins de certitudes qu'auparavant, et que cette relation surtout qui est celle qui est la principale idée du musée, c'est cette relation avec la nature, de l'homme et la nature. Quelle est cette relation? Et cette relation est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Regardez le problème, par exemple, du réchauffement du climat à l'heure actuelle. Eh bien, on se dit, mais quelle est la part de l'homme? Est-ce que ce phénomène est un phénomène naturel, comme on le sait dans les temps anciens, avec, vous savez, les cycles, par exemple, des glaciations et puis des réchauffements de la Terre régulières? Voilà. Mais aujourd'hui, on se dit, mais ce réchauffement, il est peut-être accentué par des attitudes. Par exemple, les forêts disparaissent. Par exemple, l'utilisation de certains produits calorifères peut entraîner l'émanation de gaz carbonique. Et puis, voilà, une détérioration, au fond, de la couche qui nous protège, au fond, des rayons du soleil.
Alors, nous allons parler, bien sûr, en détail, dans quelques instants, des questions qui vont être évoquées dans ce nouveau Musée de l'Homme. Avant tout, si vous le voulez bien, quelques détails techniques.
Oui.
Où vont être stockés tous ces objets de la collection actuelle du Musée de l'Homme? Oui. Où vont-ils partir? J'imagine que c'est un déménagement de grande ampleur.
Alors, il y a plus de 500 000 objets, ne serait-ce qu'en préhistoire. Mais il y a les collections anatomiques, il y a les humaines, il y a les collections, comme on appelle homme-nature-société, c'est-à-dire une ethnologie de la vie quotidienne. Et là aussi, il y a des missions, des chercheurs qui sont sur le terrain. Et au fond, ces collections sont alimentées par ce que ces chercheurs retiennent dans leurs études. Alors, ce ne sont en général pas des objets très, très riches ou très spectaculaires. Vous voyez, par exemple, on a une collection de pains. Le pain se fait différemment, a des formes différentes, selon les régions. Donc, cette collection, elle vient d'Europe centrale. Voilà. On a aussi des collections comme cela, de petits objets faits avec des feuilles et des brindilles. Voilà. Vous voyez, toutes ces petites formes de l'activité humaine, mais qui fait souvent l'ingéniosité de cette humanité et qui fait aussi surtout eh bien, le respect de la nature ou bien au contraire enfin, cette utilisation de la nature comme produit alimentaire ou comme produit de maison, enfin, de construction, enfin, de lieu de repos, par exemple.
Mais alors, je reviens à ma question. Où vont partir ces 500 000 objets ? Est-ce qu'ils restent dans la réserve du Musée de l'Homme alors, ou est-ce qu'ils sont disséminés à droite à gauche ?
Oui, pour la plupart, ces 500 000 objets, là, ou plus, vont aller au jardin d'histoire naturelle et au Musée d'histoire naturelle et dans un bâtiment qui est en cours de construction. Il y a, au-delà de la rue Buffon, au Jardin des Plantes, il y a donc un espace qui est resté libre et le directeur général, M. Gallet, a pris la décision de construire là eh bien, un espace qui permettra d'abriter pendant les 3 ans de construction du nouveau Musée de l'Homme à la fois les collections et puis les chercheurs qui seront à proximité et qui continueront à étudier ces collections.
Donc finalement, la question ne se pose pas de savoir où vont ces chercheurs. Ils seront abrités par le Muséum national d'histoire naturelle.
Voilà. Et certains gros objets dont on n'utilisera pas la fonction ou l'étude iront un peu plus loin dans une autre réserve, mais également du Muséum d'histoire naturelle.
Parlons chiffres. Le budget est de 52 millions d'euros. Donc sur ces 3 années, j'imagine, de travaux. J'imagine qu'en ces temps de crise, comme le veut l'expression, je crois que ce budget a été décroché en 2008. J'imagine que ça a dû être très difficile de décrocher ce budget vis-à-vis du ministère de la Recherche.
Le ministère de la Recherche, c'est une somme importante. Le bâtiment lui-même existe, donc on ne détruit pas du tout le bâtiment qui est classé monument historique. Mais à l'intérieur de ce bâtiment, il faut refaire effectivement beaucoup de choses, en particulier parce que à mesure qu'on utilise l'intérieur d'un bâtiment, on a toujours envie de modifier un peu les choses à chaque étape, disons, de rénovation. Et cette fois-ci, la rénovation et les architectes, à la fois bordelais, avec l'équipe Brochet, et puis à la fois de Montpellier, ces architectes ont fait un magnifique projet qui est au contraire de redépouiller complètement le bâtiment pour faire rentrer la lumière et puis, le cas échéant, l'interrompre pour des vitrines, d'objets précieux, etc. Mais voilà, les grands espaces, en particulier des grandes courbes, vont être rénovés. Et un autre bel exemple de rénovation qui revient à l'état d'origine et qu'on ne connaît plus du tout depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a une grande verrière au-dessus du pavillon d'entrée et que cette grande verrière va trouver complètement son actualité et sa fonction, puisque pour l'instant, on avait entresolé les parties qui étaient en dessous, et là, on va les redégager de manière à ce que la lumière puisse envahir, au fond, toute la partie interne de ce grand pavillon de tête.
Oui, profiter de cette lumière zénitale pour mettre en valeur la collection.
Pour mettre en valeur la collection et puis aussi pour constituer des cheminements pour les visiteurs qui soient logiques. Par exemple, dans ce grand pavillon de tête, eh bien, le visiteur aura les expositions temporaires sur 1000 mètres carrés qui feront le tour justement interne de ce pavillon. Et puis la lumière viendra jusqu'à l'entrée de la salle de cinéma ou de conférence, la salle Jean Rouch, qui gardera son nom. Et donc sur cette sorte de plateau antérieur, eh bien, il y aura là un espace pour se réunir, pour discuter, pour attendre la séance, etc. Donc voilà, il y a des fonctionnalités qui cadrent complètement avec la retrouvaille de ces grandes innovations architecturales qu'on avait perdu de vue.
Alors, passons maintenant cet aspect technique pour évoquer le sens de l'exposition. Est-ce que la collection, quand elle va revenir, va-t-elle être un peu changée déjà dans les objets qui vont être présentés et dans la manière dont ces objets vont être présentés ? Est-ce que le cheminement actuel sera radicalement différent du chemin qui va se préparer en 2012 ?
Alors, il y aura, oui, un cheminement différent, dû d'abord aux deux équipes scientifiques qui vont être hébergées, chercheront dans ces espaces.
Donc l'équipe préhistoire.
C'est la préhistoire et puis ce qu'on appelle homme-nature-société. En réalité, ces trois mots qui se juxtaposent semblent un peu compliqués. Puis on se dit, mais quelle différence avec l'ethnographie, quelle différence avec l'écologie, etc. Eh bien, c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire la relation de l'homme avec la nature, avec cet environnement. Et ça, c'est très intéressant parce que l'ethnographie pense souvent seulement à l'actualité de l'homme. C'est-à-dire, quelle est l'action de l'homme? Quelle est sa nourriture? Quelle est sa croissance et ses sciences humaines? En réalité, les sciences humaines, elles sont infiltrées partout par les sciences biologiques, par les sciences de l'écologie, par les sciences de ce monde qui est en continuel mouvement. Et ce climat actuel, ou ces mouvements de la mer là, qui remontent, ces glaces qui disparaissent, etc., ce sont des indications de ces mouvements qui peuvent avoir des influences très grandes sur le comportement des humains.
Alors, l'image que l'on peut avoir du musée de l'homme ou d'un musée qui parle de la préhistoire, pardonnez-moi l'expression, mais ça pourrait être un peu poussiéreux. On a cette image qui pourrait être un peu poussiéreuse. Dans le musée de l'homme qui va ouvrir ses portes en 2012, il y a une notion du présent et du futur. Vous en parliez au début de cette émission sur l'évolution du climat. Il y a des questions très actuelles qui vont être posées, en tout cas qui vont suggérer le questionnement aux visiteurs. Concernant par exemple la répartition des aliments, d'alimentation sur Terre, le réchauffement climatique, les mouvements de population, tout ça dans un observatoire de l'humanité.
Oui.
C'est une grande nouveauté, j'imagine.
C'est une grande nouveauté, mais c'est presque une lapalissade, puisque la recherche, au fond, elle ne peut être qu'actuelle. Sinon, ce n'est plus de la recherche, c'est simplement une sorte de glose de ce qu'on pensait il y a 50 ans, il y a un siècle, etc. C'est intéressant aussi, mais chaque fois, on fait le point sur le présent. Et là, c'est encore plus vrai, parce qu'il y a des évolutions donc très grandes, ne serait-ce que démographiquement. Voilà, on se demande jusqu'où on peut aller. Il y a de vraies questions qui se posent. Mais en termes non seulement de survie, vous voyez qu'il y a des populations, des zones sur la Terre qui souffrent beaucoup de cette démographie qui grandit. Mais qui dit démographie dit aussi une sorte de fragilité. Et on voit là aussi des zones qui ne peuvent pas avoir de réaction très rapide contre certaines maladies, sont victimes de ces maladies. Donc, ces populations sont extrêmement fragiles. Et puis, comme ça, on pourrait multiplier les termes. Donc, cet observatoire ne peut être qu'un observatoire du présent. Et on fait le bilan, chaque fois, des questions avec les spécialistes, avec tous ceux qui ont des choses à dire, avec les thésards, les jeunes qui sont dans les équipes de ces chercheurs, travaillent beaucoup sur des données qui sont à explorer. Mais une fois que la thèse est passée, il y a un bilan de ces recherches et il faut en bénéficier de ce bilan. Un bel exemple, il y a une thèse récente là, qui vient d'être passée en génétique, d'ailleurs avec Evelyne Heyer, le professeur, et qui est donc au Musée de l'Homme, et sur les pygmées.
La génétique des pygmées.
Et ces pygmées qui forment des groupes aujourd'hui très dispersés en Afrique noire, on se demandait si au fond ce n'était pas une population qui était dispersée depuis tout le temps, dont on trouve des îlots actuels. La génétique semble avoir montré qu'au contraire, c'était des populations qui étaient très, très regroupées au départ, c'est-à-dire il y a 5-6 000 ans, et que cette population était donc très regroupée et ils étaient arrivés dans ces régions pour faire de l'agriculture. C'est le moment du commencement du néolithique, c'est-à-dire de l'exploitation de la nature sous une forme d'agriculture ou sous forme d'élevage, parce qu'il y avait des animaux aussi qui étaient élevés. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, on a des visions toutes nouvelles sur les pygmées. Et bien sûr, les études vont continuer et les pygmées, bien sûr, vont réagir à ces conclusions. Et là aussi, on tient beaucoup à travailler avec les populations locales.
Alors, j'imagine que c'est l'intérêt justement d'un musée-laboratoire où on peut intégrer presque en temps réel les recherches et les conclusions des chercheurs qui travaillent au sein du Musée de l'Homme, en l'occurrence.
Absolument. Mm-hmm. C'est vrai pour la population, mais c'est vrai aussi pour l'exploitation des terres. C'est vrai aussi pour regarder le Sahara avec l'évolution du climat. Toutes ces gravures que l'on voit sur les rochers, on voit des animaux sauvages, mais en quantité. On voit après des animaux domestiqués, avec là aussi toute l'organisation de la vie rurale, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Si, il y a des sociétés qui vivent dans des oasis. Hein. Et puis, on a ces populations qui nous paraissent errantes. En réalité, elles ne sont pas du tout. C'est des marchands. C'est des gens qui vont chercher le sel à un endroit, dans le sud, et qui distribuent ensuite ce sel si important à la vie des hommes et des animaux, d'ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez, on peut actualiser. On a les moyens. On peut faire ces voyages, justement, et ce contact avec ces populations, cette humanité qui vit, mais si différemment entre les populations rurales, ces populations rurales-là, et les populations urbaines des États-Unis ou de l'Europe, ou encore les populations complètement désemparées, des Inuits par exemple, qui voient la chasse aux phoques disparaître parce que les glaces disparaissent, parce que il n'y a plus les saisons dures qu'ils avaient endossées pendant des années. Maintenant, ils sont obligés de se recycler dans des petites usines, etc. Mais c'est un drame pour des sociétés qui avaient des cultures très fortes et très imbibées de tous ces modes de vie.
Alors, en vous écoutant, Jean-Pierre Moen, on n'attend qu'une chose, c'est que 2012 arrive vite pour qu'on puisse entrer dans ce nouveau musée de l'homme. Une dernière question. Il me semble que parmi les éléments centraux qui vont se trouver dans le musée, il y a une tête monde à buste. Et puis la tour des milieux. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces deux éléments pour terminer cette émission ?
Alors là, c'est une idée, bien sûr, de Zed Casalas, qui est notre muséographe, mais on a suivi immédiatement, au contraire, on a travaillé ensemble après. La grande tête, là, c'est une tête qui dépassera même l'espace de la hauteur, qui apparaîtra également à l'étage. Et c'est une tête qui représente des bustes. On a la chance d'avoir plus de 590 bustes qui ont été faits sur nature. Ils sont en plâtre et sur nature au 19e siècle.
Donc des bustes qui vont former une tête.
Et voilà. Alors, et à ce moment-là, les populations étaient peu mélangées. Donc on voit comment ces populations s'étaient réparties naturellement, et s'était attaché à certaines régions du monde. Alors bien sûr, avec une ceinture de peau noire, par exemple, autour de l'équateur, et puis plutôt blanche ou jaune, etc. Tout ce qu'on connaît par nos livres de géographie. Et alors on pose la question, mais pourquoi il y a une telle différence alors que, et on monte juste à côté, l'hélice de l'ADN en disant, mais on est tous d'un même groupe humain. La preuve, c'est qu'on est interfécond d'une région à l'autre. Et on se dit pourquoi. Et on explique alors les problèmes de mélanine. C'est ce pigment qui est plus ou moins profond dans la peau. Et puis on explique comment la biologie est la même. Et que malgré ces aspects extérieurs, on n'est qu'une seule et même espèce. Et puis l'autre, la tour, c'est pour rapprocher des aspects plus technologiques, un peu à la manière de Leroy Gourhan, qui était dans cette maison aussi du Musée de l'Homme, et qui explique comment l'homme a fabriqué
et s'est adapté à son milieu.
Et s'est adapté de cette manière-là à son milieu. Et ça, il y a quelques animaux qui s'adaptent aussi de cette manière, hein, avec quelques outils ou quelques singes, etc. Mais l'homme est allé très loin puisque tout notre environnement est fait de cette fabrication humaine.
Je vous remercie Jean-Pierre Mohen. On va attendre patiemment 2012 pour pouvoir pénétrer dans le nouveau musée de l'homme qui reste bien sûr place du Trocadéro au palais de Chaillot. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission.
On vous y attendra.